Bienvenue au Polysécure, épisode sur lequel on va discuter de l'actualité. Je suis avec Vincent.
Salut!
Ça va bien?
Ben oui, toi.
Et c'est l'été, il fait chaud, il fait plus 1000! Fait qu'on en profite parce que là, de toute façon, comme Québécois, on va finir par chialer parce qu'il fait chaud, il fait froid, on n'est jamais content. Fait que finalement, il faut en profiter au moins pendant qu'il fait chaud et s'endurer un petit peu.
Moi, je chaîne pas quand il fait chaud. Jamais. C'est jamais trop chaud.
c'est moins pénible que le froid, minimalement. Fait que bref, passons au shameless plug. On est toujours dans un état de COVID. On est toujours dans un état, une quatrième vague d'un point de vue mondial. Ça devrait affecter tout le monde. Donc, le même rappel qu'on fait tout le temps, se laver les mains, porter le masque, se tousser dans le coude, pas licher la face de nos convives, s'il vous plaît. Faites-vous vacciner. Les éléments de base pour réussir à passer à travers. Et s'il vous plaît, pas une cinquième vague. S'il vous plaît, on espère pouvoir revenir à une pseudo-normalité là, de vie.
Oui, puis c'est le début des classes aussi. Là. C'est pas le temps de déraper. Nos enfants peuvent le pogner.
Oui.
Là, les contacts recommencent, etc., etc. Donc, importance de d'être assidu, puis de faire... Best effort, s'il vous plaît, encore pendant au moins le début des classes. Hein. C'est comme un moment charnière à chaque année. Là.
Oui.
Donc, faut pas l'éviter. Et le long congé aussi qui s'en vient, autre moment avec le début des classes qui pourrait oui. être un vecteur de dérapage. Ah,
le fait du travail, c'est là on s'élève le fait de travailler, mais en ne travaillant pas. Fait que c'est tout à fait effectivement. C'est une autre occasion de cette nature-là, donc soyez prudent. Les mesures de base, les mesures qui sont fondamentales, lavage de main, masque, sont quand même les plus efficaces. Les restants, j'ai un doute raisonnable sur l'efficacité, mais bon, minimalement, on suit les recommandations de la santé publique. 7 au 9 septembre, le FIC à Lille. C'est confirmé, je vais pouvoir y aller. J'ai mon passe vaccinal français, donc ça va faciliter mon cheminement. Et... En ce sens, je vais pouvoir facilement y accéder. Fait que si vous y êtes au FIC aussi, faites-moi un petit coucou, puis je vais être là. Ça va être très agréable de rencontrer les gens qui nous suivent, qui nous écoutent. 12 au 17 octobre, Printemps numérique présente Montréal Connect. Donc, événement d'information au sens large du numérique. Donc, très intéressant, dans lequel moi-même, je vais présenter entre le 12 et le 15, lequel je vais présenter. Donc, ça risque d'être intéressant. Avril 2022, Québec numérique représente la semaine numérique dans laquelle le Sécure revient. Donc, ça fait l'essentiel des shameless plugs. Embarquons sur les sujets, puis j'aime bien le sujet que Vincent a amené, celui de... Un voleur, le monsieur White Hat qui a été nommé, qui a volé et peut-être rendu une partie de ce qu'il a fait dans des crypto-monnaies.
C'était un soir de brume du mois d'août. Non, je blague ici. 10 août dernier, il y a Poly Network qui a rapporté justement un vol d'une valeur de 600 millions de dollars là, de crypto-monnaies pendant des échanges, justement. Et puis, écoutez, la panique a pris, bien entendu, étant donné que le modèle, justement, de vérification de validité de fonds, validité de transfert, bon, validité, etc., nous suggère justement qu'avec ce type de transfert, c'est extrêmement sécuritaire de bout en bout. Avec avec preuves à l'appui, avec chemin d'authentification, de certificats, de ci, etc. Eh bien, écoutez, ben c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est inséré entre les deux et puis a réussi à récupérer 600 millions de dollars. Deux jours plus tard, avec la petite nouvelle qui a apparu justement en catastrophe, il n'y a pas eu de gros délai justement pour la divulgation justement de ce vol-là. Il y a quelqu'un qui s'est manifesté et a fait la remise de 338 millions de dollars, probablement parce qu'il était gêné, il y avait honte ou...
Moi, je pense qu'il avait peur de la police.
Effectivement.
Quand t'as volé 600 millions, là, la police, c'est pas mal pas loin. Là.
Effectivement. Écoutez, le montant est... effectivement phénoménal dans les circonstances. Là. Ça peut pas... ça peut pas ne pas passer inaperçu. Fait que dans les circonstances, probablement qu'il y a déjà eu un branle-bas de combat, gestion d'incidents, du forensique, peu importe. Deux jours plus tard, donc le 12 août, remise de 338 millions, quelques petits échanges. Et puis, si je me trompe pas...
Ouais, ben, il a fait une pseudo-entrevue avec des questions-réponses sur lesquelles il se flattait la bédaine sur le fait que c'était un bon gars, puis que c'était sans... Il est tombé par hasard, puis que c'est... Finalement, ils ont fini par le nommer M. White Hat en conséquence, lequel c'est très discutable comme appellation. Là.
Écoutez, 16 août, donc entre le 10 et le 16, moins d'une semaine plus tard, remise au complet de l'argent, puis l'entrevue dont Nicolas parle de M. White Hat... Où il stipule, oh, je ne suis pas intéressé par l'argent, je suis plutôt intéressé à offrir des conseils, bon, etc. Il a joué, en fait, je n'appelle pas ça du violon cyber, là. Ça a passé de cordes. Moi, je préfère la cyber harpe, une harpe à 83 cordes. C'est beaucoup plus mélodieux, là. On peut enjôler beaucoup plus de dirigeants de cette façon-là. Mais écoutez, dernière nouvelle, les 600 millions ont été rendus par le dit Monsieur White Hat, c'est peut-être Madame White Hat, on le sait pas. Il s'est présenté comme étant une personne plutôt joviale, veut donner des conseils en cybersécurité et on voit ses dires justement au niveau de l'entrevue où je suis pas un expert en analyse de phrases, mais il cherche comme le consentement de la personne qui va recevoir justement cette entrevue-là en disant « Est-ce que les mesures de sécurité n'auraient pas dû être plus rigoureuses ?» En terminant la phrase en disant « Non, donc une question. » Donc, il y a une recherche d'approbation ici là pour peut-être se disculper ou... Non, je ne penserais pas. Là,
Déjà là, pour ceux sur ton analyse, je pense qu'il y a vraiment un niveau de faible maturité émotive chez l'individu. Puis il essaie de justement... camoufler son geste de cette façon-là. Parce que, tu sais, très sérieusement, essayer de laver 600 millions de dollars dans les marchés obscurs, c'est assez tough. Je pense qu'il a été pris par surprise de l'efficacité de sa manœuvre, de un. Puis, de toute apparence, il n'a pas l'air super âgé en termes de... À mon sens, c'est un ado, là, tu sais. Il a fait comme il était dans son sol, il chillait, faisait du TikTok, et pouf, il a comme cassé le Dans le fond, la manœuvre qu'il a faite, c'est qu'il a cassé les contrats intelligents, les smart contracts qui sont liés avec ce marché-là, le Poly Network. Donc, c'est ça qu'il a fait. Fait que là, il a réussi à drainer le marché. Puis, je pense qu'il n'a pas tout à fait compris ce qu'il faisait. Puis, il a pris panique, là.
C'est pas notre première histoire où, justement, des pirates sont surpris de l'efficacité, justement, de leur manœuvre. Puis, tout d'un coup,
oui.
ils décident de jouer carte blanche, en fait, d'avoir patte blanche dans le dossier pour éviter le pire de la sentence qui pourrait leur arriver. Écoutez, à suivre dans ce cas-ci, j'ai la dernière nouvelle date du 16 août. 16 août, c'est le 10 jours. Je sais, j'ai aucune espèce d'idée.
C'est ça, les nouvelles plus récentes, puis là, on va les mettre dans le show notes, c'est qu'il ressemblerait, il aurait retourné l'ensemble des crypto-monnaies qu'il aurait volées. Ouais. Celles qui n'avaient pas réussi initialement à retourner plus sur les articles que se faisait, c'est parce qu'il y avait eu des gels de marché, justement dans la conséquence du hack que le gars avait fait. Donc, les gels se sont levés, donc maintenant, il était capable de retourner l'ensemble de l'argent, plus donc les argents sont retournés dans les porte-monnaies des différents individus qui ont été finalement volés. Par rapport à ça, Pauline aurait retourné, aurait donné un bug bounty à l'individu en question, Monsieur White Hat, ce que je trouve très particulier comme approche, de façon pure éthique. Puis ça, je me suis tout le temps mis compte de ce genre de choses-là, de payer ces individus-là, leur donner du mérite après avoir posé un geste qui est fondamentalement illégal. C'est pas super intéressant. C'est comme quelqu'un vient te voler chez vous. Ah, ben non, mais je voulais juste te montrer que ta serrure de porte marchait pas bien. Ouais, mais t'es quand même rentré chez nous. Si on prend les analogies du monde physique, ben c'est du trespassing là, au sens anglophone. Mais c'est comme une intrusion de ma vie, de ma maison, de ma demeure. Je trouve pas ça super cool là, que le gars ait fait ça. Je comprends pas pourquoi Poly Network est aussi jovial dans cette aventure-là. Ça laisse quasiment présager qu'il y a connivence jusqu'à un certain point, là.
Écoute, ça semble scénarisé, effectivement, parce que Bug Bounty, on parle d'un programme. Normalement, c'est encadré. C'est,
oui, des normes.
C'est
des
déjà scénarisé, par, oui. Disons-le comme ça. Donc, il y a déjà une chronologie d'événements qui doivent se passer. Peut-être qu'effectivement, c'était... il voulait présenter ça. C'était plus spectaculaire de le présenter comme ça. Ça semble effectivement, il semble y avoir un guise sous roche là, dans tout le scénario.
Oui, puis tu sais, tant qu'à faire le scénario, mais ça ressemble beaucoup à l'espèce de façon qu'on voit dans les choses de super-héros comme Marvel et DC. L'espèce de genre, je suis bienveillant même si j'ai fait le mal. Fait que cette notion-là, un peu adolescente, de voir que le geste qu'on a fait est finalement sans conséquence. Non, il y a de la conséquence. Il a quand même exécuté le geste jusqu'au bout. Et c'est pas parce qu'il a fait un mal honorable dans ce cas-ci qu'il est moins coupable. Donc, ça, j'ai un énorme malaise à cette situation-là. Puis ça a toujours été, là, dire, on peut pas commencer à donner des jobs ou à payer les hackers qui ont soit échoué, soit raté, ou soit qui a fait comme ça parce que, le voleur a juste raté, il a juste défoncé ma porte, mais il n'a rien volé. Ben, il a quand même défoncé ma porte malgré tout. Donc, selon la façon qu'on vit dans notre société, c'est des gestes qui sont inacceptables. Mais pourquoi on le tolère davantage dans le monde virtuel avec la monnaie? Là, c'est quand même 600 millions de dollars. Tu sais, il a volé une banque, pas avec un bout de fusil, mais il a quand même volé une banque à la hauteur de 600 millions de dollars, même s'il a retourné l'argent. Le geste était posé. Là.
Moi, j'ai aucune idée, mais au niveau des différents investisseurs, il y a peut-être probablement quelques investisseurs, un pourcentage X, qui ont dû avoir une frousse. Il y a peut-être des avocats qui sont sur le dossier. Là. Puis, c'est pas M. White Hat qui est visé. Là. C'est probablement Poly Network. Là. Puis, ils doivent se défendre sur les deux fronts. Là. Est-ce que, comme tu dis, il a donné un bug bounty? Ça semble être dans le scénario qui était prévu.
Ouais, mais c'est ça qui est troublant. Mais, là. Je trouve que Poly Network est excessivement complaisant avec l'individu. Je comprends pas ce niveau de complaisance-là. Quand il y a de l'autre côté, il y a des entreprises, tu fais juste dire, oui, j'ai comme reversé ton code, puis genre, il y a un problème, puis je veux t'aider de façon discrète. Je te vole pas d'argent, puis je t'aide. Vont tout de suite invoquer le DMCA, vont les poursuivre, tout ça. Fait que là, il y a comme. Ça ne suit pas le scénario standard qu'on voit en général.
Parce que j'étais un des investisseurs, puis j'aurais eu une frousse, c'est pas compliqué, là. Les millions qui m'appartiennent là-dedans, là, moi, je retire ça, puis je m'en vais vers une nouvelle plateforme, là. Une plateforme que je juge probablement plus sécure, là, selon les conseils de mes avocats. Bien entendu, je suis dans la peau de l'individu, mais tout ça. Fait que, à suivre, écoutez, peut-être qu'il y aura une suite éventuellement sur le dossier. Puis ça, au niveau du montant, c'est exactement, c'est 611 millions de dollars.
Et c'est des bidous, là. Ben oui, c'est sérieux, là.
Je vais dire comme toi, là, un clown qui vole ça, OK, il est victime de son succès, mais il y a le après, là. Il faut qu'il trouve le moyen de rendre ce montant-là lui appartenant. Autrement dit, il faut qu'il trouve le moyen que ces dollars-là lui appartiennent, s'il veut pouvoir les utiliser. Sinon, il est juste pogné avec un vol. C'est comme les beaux films où on voit des vols de bijoux. C'est pas tout le monde qui sont dans la gamique. C'est pas tous les geôliers qui sont dans la gamique du bijou, puis du vol, puis du recel, puis de la transformation en dollars. C'est de l'organisation, c'est du contact. Lui, 611 millions, il fera pas ça avec le clown du coin, là, chez Instant Content, là, Instant Content Bitcoin, là.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il avait pas de capacité à sortir de l'argent qu'il avait volé, puis il était pris avec des sommes extrêmes. Puis même, ce qu'on peut penser, le Bitcoin ou toute crypto-monnaie comme parce que lui, Pauline Rogan avait plusieurs, c'est pas super anonyme en tant que chose. Il était capable quand même de retracer d'où ça vient. Fait qu'il aurait été capable de retracer jusqu'à un certain point. D'où venaient les transactions, mais c'est un montant non négligeable. Fait qu'il aurait, c'est sûr qu'il aurait retrouvé l'individu. Il a juste pris panique. Fait que, tant qu'à moi, c'est un ado ou un adulte qui a encore une mentalité d'ado qui a été pris par surprise, puis il avait juste pas réfléchi à ce qu'il faisait, puis ben là, sauf qu'il l'a fait. Là, c'est comme t'as cambriolé un dépanneur. Ah non, mais c'est pas grave parce que non, tu l'as cambriolé pareil. Même si c'est par accident, tu l'as fait. T'as posé le geste illégal quand même. Si on va dans le droit criminel, le chapeau à Virginie, parce qu'elle en fait référence dans son podcast, il y a l'actus reus et la mens rea. L'actus reus, c'est l'action criminelle, elle est clairement faite. La mens rea, c'est l'intention criminelle. Donc, clairement, on voit que l'individu avait quand même l'intention de prendre cet argent-là. Peut-être pas autant, mais il avait quand même l'intention. En fait, il a posé un geste concret qui est au sens du droit criminel canadien. tant qu'à moi, il est coupable du geste, d'un geste très, très illégal. Fait que j'ai hâte de voir la suite, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que ça suit. Il y a beaucoup de rebondissements dans cette aventure-là, mais je suis encore très fasciné par la complaisance de Poly Network sur la non ou les excuses qu'ils donnent sur ce que l'individu fait. Là. Je suis vraiment fasciné. Là.
À suivre.
Peut-être que c'est un investisseur qui est en arrière et qui a fait le test, puis tu sais, oups. Puis tu sais, j'ai tant qu'à reprendre à ça. On a eu le cas des deux pauvres bougres qui faisaient un pen test physique sur des cours de justice aux États-Unis. Qui ont mal, ça a été mal attaché, puis contractuellement, il y a eu des problèmes, puis ces deux individus-là se sont trouvés être arrêtés par la police, parce que la police n'avait pas été informée, qu'il y a eu une invasion dans un palais de justice, qui est quand même un geste très important, donc qui amène une réponse très importante. Donc, tout ça, puis contractuellement, c'était pas aussi clair que ça. Puis on parle d'un contexte contractuellement fait, là, on parle dans un contexte de Poly Network où il y avait zéro contrôle, gars, le bout du vieux volet, puis ah, c'est cool, c'est sympathique. Ah, j'aime pas ça. Ça pue. Bon.
Ben écoute, c'est le dernier rebondissement. Si tu veux un petit odeur de Febreze au travers de tout ça, là.
Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on va suivre ça dans les prochains épisodes parce que c'est vraiment intriguant tout ce que ça peut comporter comme situation parce que c'est vraiment louche là, comme situation. C'est sûr que c'est triste parce que, tu sais, Pauline a quand même ce hack-là en sens large, c'est que les comptes... J'aime ça en français parce qu'on dit comme les smart cities, les villes intelligentes. Pourquoi on me dit smart comme par intelligent en français? Cette traduction me fascine. Donc, les contrats intelligents, les smart contracts, il y avait une faille. Donc, ça amène quand même en lumière que Poly Network a été touché par ça. Donc, faire très attention par ces mécaniques automatisées-là parce qu'ils présentent des enjeux. Et cette mécanique automatisée-là, ben, là, a été usurpée par l'individu pour son bénéfice. Donc, c'est aussi faire très attention à ces mécaniques-là.
Écoute, on peut extrapoler. Parce que Poly Network, c'est peut-être un intermédiaire justement pour confirmer puis valider ces transactions-là. Puis ils doivent faire affaire justement avec d'autres organes justement de crypto-monnaie qui utilisent le même genre de mécanique. Je ne sais pas si les autres organes, les zones de transit de crypto-monnaie, s'il n'y a pas eu une forme d'éveil en disant « Wow, attendez un petit peu, là, il peut-tu remonter jusqu'à nous autres? Est-ce qu'on a des technologies similaires? Est-ce qu'on est à jour? » J'amène la dimension où ça peut extrapoler puis amener justement une dimension où, par ce simple geste-là, ben, peut-être qu'il y a d'autres firmes qui transitent puis qui ont le même type de prestation de service qui pourraient se revirer contre Poly Network ou contre les éléments justement de certificats intelligents, etc., pour dire, attendez un petit peu, là, s'il y a des failles, on fait les travaux, on est accompagné, puis on ne nous dit pas qu'il y a des failles, ou il manque de compétences, etc. La petite bombe que ça peut créer dans le domaine. Là.
Mais c'est sûr que ça va générer un réveil chez ces investisseurs-là. Mais en même temps, cet élément-là, puis parce qu'on est à la croisée des chemins, parce que le gouvernement américain a mis dans son énorme loi sur les investissements en infrastructure certaines clauses par rapport à la crypto-monnaie. Ça fait pas l'unanimité pour plusieurs bonnes raisons et mauvaises raisons. Donc, ce qui a été fait là, ça a été fait trop rapide. Mais en même temps, les institutions américaine, puis au niveau mondial aussi, ça s'en vient, ont un appétit de plus en plus grand à réglementer le marché de la crypto-monnaie parce que justement, on est dans un contexte comme celui-là où c'est un peu le Far West, où il n'y a pas de réglementation, où il n'y a rien. Est-ce que, au niveau de la crypto-monnaie, pas au niveau du blockchain lui-même, parce que le blockchain est la technologie sous-jacente, le blockchain a d'autres utilisations, mais dans le cas de la crypto-monnaie, est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir une réglementation minimale qui s'assure d'une protection puis des dons d'action, parce que là, dans le fond, ce que l'individu a fait, c'est un vol de banque ou un vol d'un stock exchange. Au sens physique, ça a des conséquences réelles et très plates pour l'individu qui fait ça ou les individus qui font ça. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire la même chose dans ce contexte-là? J'ai l'impression que je pense qu'un niveau de réglementation minimal est quand même nécessaire, peut-être pas pour réduire le dynamisme des crypto-monnaies parce qu'il y a des avantages à ça puis il y a des éléments, mais quand même pour éviter des fiascos de cette nature-là, parce que protéger les investissements, parce que c'est quand même beaucoup de valeur, là. Il y a des pertes, parce que tu sais, là, on parle du exchange, mais c'est-à-dire qu'il y a 611 millions qui ont été volés à des gens de plus ou moins grosse envergure, tout dépendant de la valeur de leur portefeuille. Fait que c'est quand même des gens qui ont perdu de l'argent dans le processus. Donc, je pense que le législateur se doit de poser des actions pour protéger les individus. Là.
Je dirais plutôt que c'est des gens qui pourraient perdre de l'argent dans ce type de marché-là. Là, l'argent était rendu. La conséquence sur ces gens-là est minime. Je vais poser la question. Ben, je vais faire l'affirmation suivante, puis peut-être une question au travers. Tu sais, la création justement de la crypto-monnaie venait justement avec le modèle où on voulait éliminer une forme d'intermédiaire et de chien de garde qui sniffe au-dessus des transactions. De ta question à est-ce qu'on devrait commencer à réglementer? Écoute, d'un point de vue purement technique, je te dirais oui, parce que la valeur de ces monnaies-là commence à prendre une importance assez phénoménale et le niveau de confiance que les gens qui peuvent se permettre d'investir dans ces valeurs-là commence à être grand. Donc, une perte de 100% du jour au lendemain, donc le pire qui pourrait arriver, pourrait avoir un effet maintenant dévastateur. Par contre, ça a été créé dans le but d'éviter justement des intermédiaires puis des sniffeux au travers de ça qui viennent réglementer. Fait que d'un autre côté, je dirais non, faudrait pas chercher à vouloir réglementer ça. Ça va faire une roue qui tourne, c'est que ça va devenir réglementé. La fiscalité va s'intéresser à ça.
Ah, ça déjà, la fiscalité, c'est déjà... nos agences de revenus nationaux sont déjà... C'est comme des requins qui sentent le sang. Il y a de l'argent, ils vont s'y intéresser. Ça, c'est correct. C'est la nature de leur fonction. Là.
Mais tu sais, d'un autre côté, l'idée initiale de ce type de valeur-là, de monnaie-là, c'était justement pour une forme d'évitement volontaire puis tolérée par les autorités. Puis là, tu voudrais mettre de la réglementation. Je dis pas Nicolas veut mettre de la réglementation. la question, est-ce qu'on devrait mettre de la réglementation? Ben, ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, ça va rentrer éventuellement, puis de façon très insidieuse, sans que les gens s'en aperçoivent, dans le marché standard des types de monnaies, probablement. Et puis, ça va être soumis à la même réglementation. Donc, ça va perdre sa saveur initiale. Il va se passer quoi? Il y a quelque chose d'autre qui va se faire on the side avec une autre technologie. Donc, est-ce qu'on devrait avoir comme le pétrole, est-ce qu'on devrait avoir une réglementation on the side spécifique au pétrole versus la monnaie puis les valeurs mobilières puis le plein exercice? Oui, non, peut-être que oui, peut-être que non. Je pense qu'il y a peut-être des questions.
Ouais, c'est très philosophique comme approche puis tu sais, j'adore l'angle que tu y donnes. Parce que non, c'est pas moi qui veux réglementer. Mais cela étant dit, c'est parce que là, de toute façon, pour moi, je perçois la crypto-monnaie pas comme une monnaie, mais comme un titre boursier. Fait que c'est là où ça rejoint davantage la structure de la crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie décentralisée. Puis c'est comme ça de plus en plus qu'ils commencent à présenter comment c'est fait. C'est une structure décentralisée. Puis je suis d'accord avec le volet décentralisé, contrairement aux monnaies nationales qui sont toutes des monnaies centralisées, donc contrôlées par une banque d'un pays. Donc, on est dans cet esprit-là, fait que ça va, mais c'est des mesures qui ressemblent plus à des actions, marché secondaire à des bourses. Donc, il y a quand même, les bourses ont quand même des réglementations qui sont adaptées à la bourse, pas adaptées à la monnaie. Donc, je pense qu'il y a quand même un lieu où on est capable de... Puis là, je reviens, on est de façon non sauvage ou de façon non brutale, parce que je sens que le gouvernement américain, entre autres, le fait de façon un peu trop brutale, un peu trop... pas subtile, mettons, cette réglementation-là. Donc, d'amener cette réglementation-là dans un contexte de liberté, parce que la monnaie représente cet élément-là, mais en même temps... protéger minimalement l'investisseur, parce que pour moi, le rôle de l'État, c'est de protéger l'individu contre les gens sans scrupules, dans un contexte comme celui-là, ben, on a besoin d'un minimum de réglementation pour se préserver contre les gens sans scrupules et contre les voleurs de grand chemin comme l'individu. Pour, c'est nécessairement le même s'il s'appelle Wattat puis s'il se drape de choses. Pour moi, c'est un voleur de grand chemin. Là. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, la réglementation nous sert à se protéger contre ce genre d'individu-là et bien structurer l'ensemble. Puis là, tu sais, tant qu'à faire un petit glissement, ben, on a tout le volet des assurances qui est là. Puis dans le fond, on partage le risque avec les assureurs. Puis ça, toi, Vincent, t'es encore même plus familier que moi avec ça. C'est que ce partage-là, l'assureur en prend charge, disons, de la perte. Donc, dans le cas du 611 millions, ben, dans ce cas-ci, si le polyendroïde avait été assuré, c'est ça son assureur qui aurait pris le bill, qui aurait pris le 611 millions, et l'aurait reversé aux différents portefeuilles qui ont été touchés par ça. Donc, on a une structure.
Je vais dire oui, mais de façon caricaturale, tu as tout à fait raison. Tu sais, c'est ça qui se serait passé. Je vais dire oui, dans la mesure où les assureurs commencent à être très habiles maintenant avec les cyber méfaits qui feraient perdre de l'argent pour lequel on appliquerait justement notre assureur cyber au travers de ça.
Oui, mais ça, c'est l'autre aspect parce que, tu sais, on parle, tu sais, au niveau du rançon, justement, on entend beaucoup parler des assurances. Parce que, puis là, c'est un débat, parce que pourquoi les assureurs payent les gens de rançon logicielle? Donc, on finance le crime organisé à travers nos assurances, ce qui est très mal conceptuellement parlant. Donc, puis je comprends pourquoi les Américains veulent bloquer ça, puis d'autres nations aussi veulent bloquer le fait de payer des rançons parce qu'on vient financer le crime organisé, ce qui est un non-sens en soi. Donc, si on a de l'argent, ils vont continuer. Si on a plus d'argent, ils vont arrêter. Là, c'est un peu ça. Donc, mais de l'autre côté, c'est que les assureurs, puis pour rejoindre ce que tu disais, commencent à comprendre. Donc, les primes augmentent violemment. Fait que là, ça sera plus facile d'avoir de l'assurance cyber comme ça l'a peut-être déjà été. Là, il y a une marche de plus en plus haute. Et ce qui est bien pour ce que nous, dans le fond, on va avoir de la job pour tout le temps, c'est que en plus d'augmenter les primes, ils mettent des conditions. De type PCI DSS, par exemple, pour ceux qui connaissent ça. Fait que tu as un seuil de conformité. Fait qu'ils vont exiger aux entreprises, OK, tu es un niveau de conformité A, donc tu as une prime pas chère, mais si tu es en conformité C, donc moins bon, donc tu vas payer beaucoup plus cher. Fait que tu as intérêt à arriver en conformité A. Donc, conformité A, ça va exiger des antivirus modernes, de segmentation, zéro trust, blablabla. Bla. Fait que les assureurs ont ce levier, puis j'espère qu'ils vont l'utiliser davantage, parce que c'est en train de se former, d'aider le marché à se sécuriser, puis à amener, comme le PCI, on peut chialer sur le PCI, parce que tu sais c'est du normatif, c'est du conformité, ça augmente pas fondamentalement la sécurité, mais ça a quand même ramené l'ensemble du niveau minimal de sécurité de tous les commerçants à un niveau qui est franchement meilleur qu'il y a 10 ans. Là. C'est juste l'asile, là.
Ça rehausse la sécurité. Ça rehausse beaucoup, certaines balises, souvent. Puis des fois, des petites balises qui sont un petit peu oubliées, puis poussiéreuses, puis qu'on oublie. Écoute, je vais revenir à un petit élément, là. Les assureurs qui offrent une cyberassurance sont rendus tellement habiles. Je vais reprendre l'exemple de Nicolas. On décide de payer la rançon parce que pour traiter, gérer l'incident, puis avec un retour à la normale plus ou moins brutal, c'est préférable de payer la rançon. Puis, mais faites attention. Quand je dis payer la rançon, ça ne veut pas dire que vous retrouvez un retour à la normale. Il y a des travaux à faire pour éviter un double chiffrement, bon, etc., etc. C'est qu'au départ, c'est un petit documentaire que j'ai trouvé intéressant, les cyberassureurs, au départ, effectivement, ne voyaient pas l'ensemble des enjeux, des critères, des objectifs. Ce qui faisait que lorsqu'on s'assurait et qu'on se faisait justement pirater, rançongicieliser, hijacker une transaction, peu importe, pour le pirate, de se faire dire, il y a probablement une cyberassurance, donc il va se faire rembourser. Pour moi, là, cette valeur, c'est un double vol. Oui. Pour moi, c'est carrément un double vol. Mais là, l'assureur est tanné justement de passer justement de d'être le bouc émissaire en disant, OK, il s'est fait voler pourtant. Ça a coûté tant pour le retour à la normale. Donc, il faut que je fasse un chèque à la compagnie XY de tout ça. parce qu'il a payé la prime, effectivement, OK, un instant, là. Donc, ils sont en train de raffiner leurs mesures. Nicolas a raison. Il y a des évaluations d'écart de sécurité qui sont faites par les assureurs maintenant. Ils débarquent chez vous, là. C'est un Audi, c'est plate. Puis ils débarquent avec leur approche.
Ils débarquent avec leurs actuaires.
Oh oui.
C'est pas le fun de dealer avec un actuaire. Les autres sont brutales. Les autres, c'est les chiffres, c'est de la mathématique. C'est tough, là. Ils vont vraiment te squeezer là, le maximum, là.
Puis ils sont très capables de moduler ce que vous voulez assurer, ce que vous ne voulez pas assurer aussi pour arriver à une forme d'équilibre. Mais ils arrivent avec leur équipe d'experts. Ils font une analyse d'écart. Donc, la qualité, la suffisance des contrôles attendus. Puis, avec l'analyse d'écart, ils vont vous dire, vous restez comme ça, ça coûte tant du 1000 de plus parce qu'il y a un risque supplémentaire à assurer. Sinon, ben écoutez, voici le rapport. On vous accompagne. On rehausse les contrôles. Là, on parle d'une dépense directe à l'interne en matière de sécurité de l'information. Donc, vous rehaussez votre périmètre, la défense de votre périmètre. Écoutez, c'est un maudit bel exercice pour vous autres. Rehausser la défense de votre périmètre. Ça devrait venir normalement de chacune des compagnies, pas de se le faire dire par un externe pour une assurance ou pour toutes sortes de raisons, là. Pour de la prestation de service.
On va y arriver. Puis moi, j'y vois du positif. C'est-à-dire que les entreprises vont commencer de plus en plus à faire affaire avec des assureurs. Les assureurs vont de plus en plus éduquer la situation. Donc, ils vont être capables d'avoir un vocabulaire et une capacité d'analyse qui est en conséquence. Puis à un moment donné, les entreprises vont se rendre compte que payer l'assurance est plus cher, c'est ça qui est important, que mettre les mesures. Fait que quand on va arriver dans un contexte où ça va coûter plus cher à assurer que de se conformer, ben les entreprises vont finir par se conformer et de façon brutale. Là, on l'a vécu avec Sarbanes-Oxley, entre autres. Du moment que le gouvernement américain a dit « OK, les hauts dirigeants sont maintenant criminellement responsables », ça l'a modifié beaucoup de comportements d'entreprise qui étaient beaucoup plus libérales, on va dire, avant ça. Puis quand ça s'est arrivé, ben là, comme quand tu es criminellement responsable, crée-moi que le haut dirigeant s'assure qu'il n'y a pas de conneries qui se passent en bas, puis il va mettre l'argent, puis tous les projets vont arrêter, ouais. Tout juste pour... Parce que lui, ça ne tente pas d'être croupé en prison, fait qu'il va s'arranger que son entreprise, qui est généralement très grande, va respecter, puis il ne le mènera pas en prison là, non plus.
Mais vois-tu, là, on s'étend énormément sur ce sujet-là. Mais vois-tu,
oui.
Un des rôles que je trouve intéressant pour l'assureur, c'est sûr qu'à un moment donné, de son propre chef, de faire l'acquisition de compétences pour justement volontairement mettre les bons dollars aux bonnes places pour rehausser la défense de notre périmètre, l'assureur devient un allié si jamais, parce qu'il n'y a pas de risque zéro là-dedans. L'assureur est nécessaire parce que
parce que c'est du transfert de risque. Quand on parle en termes d'analyse, en gestion de risque pur et dur, l'assureur est un transfert de risque. C'est-à-dire qu'un risque que tu ne veux pas gérer, tu le transfères à l'assureur qui lui le prend. Et là, les assureurs n'étaient pas bien équipés pour analyser ce risque-là. On sous-estimait les primes en conséquence. Là, la vague de rançongiciel, on constate qu'ils ont vraiment sous-estimé. Donc, les actuaires sont en train de réactualiser justement les primes en conséquence, mais ils vont également, comme on le voit en automobile ou en assurance de dommages en général, automobile maison, ils vont calibrer par rapport à le coût de la maison, le coût de l'auto, le type de conducteur, l'âge du conducteur, puis plein de paramètres. Là, il va pouf avoir une prime. Fait que si vous êtes super négligent, votre prime va être excessivement élevée, peu importe ce que veut dire négligent. Et si vous êtes super prudent, votre prime va être super basse. Ce qui fait que, contrairement, j'étais excessivement fâché quand j'étais jeune, puis mes primes d'assurance auto étaient excessivement élevées. Un jeune homme, ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui ne sont pas prudents en conduisant. Donc, conséquemment, je suis dans le bassin des jeunes hommes qui ne sont pas prudents. En vieillissant, je suis un vieux bonhomme qui plutôt pépère en conduisant, donc ma prime a descendu de façon très significative entre les deux moments, parce que maintenant, mon profil de conducteur, il est celui du pépère qui roule pas très vite.
Mais tu sais, outre ça, l'autre rôle de l'assureur, lorsque vous mettez les bonnes mesures en place avec suffisance, c'est que si jamais le pire devait arriver malgré les mesures, ça devient un très bon allié pour la haute direction. Ça les protège. Ça les protège d'un point de vue de d'éventuelles poursuites civiles, parce qu'ils n'ont pas mis les mesures en place, etc. Ça devient un allié de taille aussi, là. Donc, c'est pas parce que vous mettez les mesures en place que tout d'un coup, vous n'avez pas plus besoin d'assurance. Votre assureur devient un allié pour protéger justement la haute direction. Si jamais une équipe de l'AMF, c'est au Canada, de la SEC aux États-Unis, peu importe, voulait débarquer
pour ben, c'est parce que le risque zéro n'existe pas. Fait que justement, on s'assure pour un risque qu'on n'est pas capable de prévoir. Dans ce cas-ci, c'est là où le rôle, ça amplifie ce que tu dis. C'est que le rôle de l'assureur, c'est d'aider, justement, de donner des outils à la haute direction pour des risques qu'ils ne sont pas capables de prévoir. Et en même temps, aider la haute direction de corriger les risques qui sont prévisibles. Puis ceux qu'on connaît comme experts en cyber, ben on a un certain nombre de risques qu'on est capable de voir arriver, on est capable de statuer, puis les assureurs l'ont compris, fait qu'ils vont aller dans cette direction-là. Donc, d'aider les entreprises à éliminer le risque prévisible et, dans le fond, d'être l'outil ultime pour un risque imprévisible, comme on voit dans les éléments de nature, par exemple, un tremblement de terre ou des inondations, des éléments comme ça qui sont très difficiles à prévoir. Donc là, l'assureur devient excessivement utile justement pour pas que l'entreprise disparaisse parce qu'elle a eu une malchance et pas une négligence. Puis c'est là où on s'en va. Puis c'est là que tu me regardes, OK, bon, on a assez battu le sujet.
On pourrait revenir sur les assureurs. La cyberassurance serait peut-être un petit sujet intéressant. Mais tu sais, de quoi de concis, là, un petit 25-30 minutes, juste débattre, prendre un cas.
Ouais, un cas de travail.
Complètement anonyme, puis juste
décortiquer. À l'organiser.
Ouais,
c'est une excellente idée, là. De toute façon, ça fait plus que 30 minutes qu'on est en train de secouer ce sujet-là. Donc, on va arrêter de secouer. On va prendre mes petits sujets qui sont quand même un peu moins funky, un peu moins large que ça. Et de toute façon, celui-là était très intéressant parce qu'il abordait tellement d'axes intéressants en cyber que, bon, bref, il fallait l'aborder puis c'est super le fun. Dans mes nouvelles à moi, c'est celle où c'est Microsoft Power Apps a exposé plusieurs centaines de millions d'informations mal protégées. On est encore dans un contexte, puis là, j'ai abondamment dans le temps où j'étais dans la French Connection. Et même depuis le PolySecure aussi, on en parle, c'est que c'est l'usage des services infonuagiques, que ce soit Amazon, AWS, Microsoft, GCP, il demeure un niveau de responsabilité qui est personnel ou à l'entreprise à sécuriser ses données. Donc, on a longtemps entendu puis dénoncé le fait qu'il y avait des buckets S3 dans AWS qui étaient mal sécurisés. Donc, AWS, entre autres, a changé sa structure. Donc, ce qui fait que maintenant, si quelqu'un veut prendre un bucket S3 puis le rendre disponible à toute l'Internet, ben, il y a genre 10 avertissements rouges avant que ça arrive pour de vrai. Donc, ils ont été obligés d'aider les gens à éviter de se tirer dans le pied, autant se mettre le pied dans la bouche puis se tirer dessus le pied. Donc, ils ont été obligés de les amener à mieux comprendre la situation dans laquelle se fait. Amazon a quand même fait son chemin parce qu'ils sont quand même un joueur beaucoup plus mature et ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le modèle infonuagique que sont Microsoft. Dans ce cas-ci, ben Microsoft Power Apps, ben là, c'est ça qui est plus embêtant avec Power Apps parce que c'est justement une structure qui aide des gens non programmeurs, donc non technologues, à développer des systèmes facilement avec des petites interfaces graphiques, avec des petits éléments simples. Donc, on est dans un contexte où on est en dehors des gens en TI qui sont déjà pas tous conscientisés à l'élément de sécurité. Là, on est dans un contexte où il n'y a pas de gens en TI qui développent des systèmes avec une connaissance minimale. Puis, dans les différents éléments, ils disent que Microsoft aurait envoyé des communications ou mis des informations à la disposition de ces gens-là pour leur expliquer de faire attention parce que par défaut, ça c'est un problème parce que Microsoft l'a heureusement changé depuis. C'est que par défaut, les informations dans Power Apps sont publiquement accessibles. Mais quand on est dans l'info nuagique, publiquement accessible, c'est pas à l'entreprise, c'est à toute l'Internet. Fait que là, c'est ça qu'il faut faire attention. Puis les gens ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas encore ce concept-là que quand on utilise ces outils-là, qui sont très faciles, très utiles, mettent en danger bien des choses. Puis là, c'est vraiment grave parce que dans le cas qui occupe la fuite-là, qui a été découverte par UpGuard, c'est qu'il y a des diagnostics COVID-19 qui ont été diffusés, qui ont été accessibles à travers ça. Il y a un paquet d'affaires. Donc, c'est très grave. Mais en même temps, ben là, c'est de se rendre compte que les gens ne sont pas suffisamment éveillés. Donc, c'est en ce sens-là, puis là, c'est là que je fais reposer sur Microsoft une partie de la responsabilité, c'est que son système était ouvert par défaut et non fermé par défaut et on ouvre ce qu'on a de besoin. Un peu ce que AWS a fait avec S3. Donc, c'est un peu les racines de Microsoft standard où tu te rappelles de MT4 et tout ce qui a précédé. Où les systèmes étaient ultra ouverts par défaut et il fallait faire un effort quand même assez important pour les fermer. Puis les gens ne le font pas. Il faut admettre, les gens ne font pas cet effort-là. C'est comme ça.
Non, mais juste le fait de dire que tu proposes des outils aux non-initiés ou aux plus ou moins initiés en technologie puis surtout en sécurité, la possibilité de développer des outils interactifs qui saisissent, transitent et traitent de la donnée, mais avec le bout manquant ce que j'appelle l'état d'alerte de sécurité, autrement dit, avoir l'esprit suffisamment alerte pour dire stop, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, ça fait quoi? Ça produit quoi? Ça transite quoi? Puis ça le fait de quelle façon? Tu sais, le NIST, là, si je me souviens bien, il n'y a pas un contrôle qui suggère de rehausser les compétences de ceux qui sont en technologie, justement, d'un point de vue sécurité, pour s'assurer, pas qu'ils soient la fine pointe, là, puis que ce soit des génies, là, mais de s'assurer qu'il y a une progression selon notre contexte, selon le contexte. Puis là, Microsoft qui a, je comprends tes dires en disant qu'il y a une part de responsabilité, c'est que là, Microsoft a vraiment ciblé un bassin qui sont pas...
Ils sont pas
éveillés de ce côté-là. On ne dit pas que c'est des épais. On dit qu'ils sont juste pas éveillés. C'est tout.
On reprend l'autre exemple. Pour les gens en TI, on va comprendre davantage les DMU. Les maudites DMU, les développements en milieu utilisateur. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un fichier Excel qui importe de la donnée de production pour faire de la manipulation pour arriver à un résultat. Essentiellement, là, grossièrement, c'est ça. Fait que c'est les maudites DMU, c'est ce genre de cette structure-là parce que les gens en milieu affaires constatent que les départements TI sont lents à réagir. Donc, à ce moment-là, ils ont de la donnée, ils veulent la manipuler, ils veulent arriver à des résultats. Donc, ils font des DMU. Bon, on l'a vécu longtemps, c'est encore un problème en entreprise. Ça, c'est très complexe. Puis pour ceux qui font des migrations de Office, donc d'une version de Office 2013 à Office 365, par exemple, c'est l'asile parce que ces maudites DMU-là, s'ils utilisent des langages de programmation qui n'ont pas suivi, ça casse partout puis c'est vraiment galère. Fait que là, on est dans un contexte que Power Apps, c'est une espèce de capacité de DMU qu'on met dans les gens d'affaires qui n'ont pas compréhension de ce qu'ils font. Mais quand ils faisaient un Excel, c'était pas grave parce que ça restait sur le réseau privé. Fait que minimum, il y avait une barrière naturelle qui les protégeait pour pas se blesser. Là, le problème, c'est que les Power Apps, il n'y a pas cette barrière naturelle-là qui est mise en place. Puis là, c'est là où je mets la faute sur Microsoft. Il aurait dû, puis là, ils l'ont fait, parce que là, ils se sont fait pincer. Mais Microsoft a cette mauvaise tendance à aller vers l'ouverture extrême et non la fermeture extrême. Bon, ça, c'est leur approche, leur philosophie. Je pensais qu'ils avaient appris avec MT4, dans lequel il y avait violemment, puis tout le trustworthy, machin, puis tout ce qu'ils ont développé par la suite pour rehausser leur posture de sécurité. Clairement, le mémo s'est perdu depuis le temps, parce que ça fait comme ce temps-là, c'est quoi? C'est début des années 2000, fait que, ça fait 20 ans. Fait ils ont peut-être oublié depuis. Là. Fait que clairement, dans ce contexte-là, fait que, c'est ça. Fait que là, Power Apps, c'est comme des DMU, mais en info numérique sur les internets. Fait que là,
Pour des non-initiés.
Pour des non-initiés, parce que les gens ne comprennent pas. Puis, comme expert, je peux pas dire que les blâmer. Je sais qu'ils peuvent pas mesurer la nature du risque. C'est un domaine particulier. Comme je peux pas demander, je peux pas mesurer le risque épidémiologique. Disons, on va parler de la COVID. Moi, je ne suis pas capable de mesurer. J'écoute des gens, des experts qui font que ça de leur vie, de mesurer la transmissibilité et tout ça. Puis là, ils réussissent à distiller un peu ça pour que je sois capable de comprendre. Mais fondamentalement, je ne suis pas capable de comprendre. Si ça n'avait pas quelqu'un me l'expliquait, je ne comprendrais pas. Puis si je prends le temps d'essayer de comprendre ce qu'il raconte aussi, pour mesurer mon propre risque de transmission ou de contamination associée au COVID. Donc, je prends des décisions cohérentes face à ça. Dans ce contexte-là, ben, on sera la même chose. Des gens qui n'ont jamais été mis en contexte ou jamais mis en place face à ce genre de choses-là. Puis ça, c'est universel. Là. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est tout. Et là, c'est le problème, il est un problème d'éducation parce qu'il faut amener les gens à comprendre. Mais en même temps, on ne peut pas espérer que 100% des gens comprennent. Donc,
Nico. DMU, Shadow IT, très, très étroitement reliés les deux.
Oui,
c'est identifié maintenant dans les comme étant des risques, même par certaines autorités. Faut établir, dans certains cas, la définition de DMU puis la définition de Shadow IT. Ce que tu viens d'expliquer là, c'est carrément du DMU, mais c'est carrément un risque, là. Autrement dit, Microsoft a mis à profit, pour de très bonnes raisons, un gros risque pour la majorité des gens qui ont utilisé ce service-là. C'est correct, là. Ils font leur meilleur culpa. Est-ce que ça a eu des répercussions? Ben, certainement. Tu parles de centaines de millions de. C'est un article que je lisais, justement. Il y a eu, malheureusement, une exposition de. Puis.
C'est atroce, c'est malheureux.
Ce qui devait arriver, il arriva.
Oui.
Mais c'est pas tout simplement parce que c'était des non-initiés, point barre.
Oui.
Puis le levier a été fourni, malheureusement, par Microsoft. Il y a un manque d'évaluation de risque.
C'est super le fun Power Up, ça. Ça te permet pour quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique de développer. Une structure de gestion automatique. Là, c'est pour ça que ça a été utilisé autant que ça, puis il y a eu tant de fuites que ça. C'est parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont utilisé. Donc, c'est un succès commercial pour Microsoft. Par contre, ces gens-là, c'est tous des gens d'affaires qui ne sont pas exposés. C'est des non-initiés. Mais je peux pas m'attendre que le médecin sache comment le risque cyber fonctionne. Sa job, c'est pas ça. Sa job, c'est de justement me donner un risque, de me donner un diagnostic médical et d'interpréter des choses que je peux même pas comprendre, puis de me le rendre intelligible pour que je sois capable de comprendre ce qui se passe avec ma santé.
Mais voilà. Fait que, écoute, c'est malheureux. C'est malheureux. Écoute, ils vont corriger le tir, puis.
Microsoft l'a déjà fait. Fait qu'on a déjà changé la valeur par défaut. Là, c'est juste qu'il va falloir, comme professionnel de sécurité, peut-être mieux diffuser la nature du risque pour que les gens comprennent. Là.
Tu vois? DMU, Shadow IT, c'est un risque, puis c'est déclinaison, que ce soit les outils, les infrastructures, peu importe, il faut que ça fasse partie du risque. Donc, les entités, justement, qui ont établi ça comme étant un risque à évaluer et à gérer pour contrôler la situation, je parle pas de Power Apps, là, je parle vraiment du terme DMU. Moi, le premier conseil que je leur donne, commencez donc par faire des définitions claires. Il y en existe. Donnez-vous des définitions, parce que c'est bien plus simple quand vous allez faire la cueillette d'informations. Vous établissez un standard puis un vocabulaire d'entreprise. Puis oui. Rendu là, vous établissez c'est quoi le Shadow IT, ses déclinaisons, ses limites, c'est quoi le DMU / Shadow IT, parce que le DMU, moi, je le vois encore pire, parce que c'est...
Ouais, c'est juste terrible, le Shadow IT, puis parce que j'ai des dossiers de cette nature-là ces temps-ci. Puis un des risques qui est soulevé par le Shadow IT, entre autres, c'est que les gens vont l'utiliser pendant une période définie. Disons, ils vont avoir un besoin d'une plateforme X en info nuagique qui leur sert dans leur besoin d'affaires. Puis c'est légitime, tout ça. Le problème, c'est que ces plateformes-là, ensuite, vont être délaissées. Et donc, l'information qui est là, est ensuite délaissé et va rester là. Fait que si on prend une plateforme qu'on a utilisée pour héberger l'information d'affaires pendant 2 mois parce qu'on en avait besoin, comme le besoin est arrêté, on délaisse et on n'entretient plus ça parce qu'on n'en a jamais parlé au TI, c'est des shadow IT. Moi, je me sens, parce que j'utilise ça, on va prendre l'exemple de Doodle, par exemple, qui est largement utilisé, ou les Google Docs de ce monde, ou ce genre de choses-là. Donc, j'ai utilisé parce qu'il y avait un besoin de défini dans le temps. Et quand c'est terminé, j'ai pas pris le temps de le fermer parce que les TI, on est habitué, un peu plus en général, c'est que quand le système n'est plus besoin, on va le décommissionner et on va faire détruire le contenu d'information qui est hébergé dans la plateforme. Les utilisateurs ne sont pas familiers avec cette approche-là. Donc, dès lors, ils vont laisser vivre éternellement, parce que les internets, c'est éternellement, les informations sensibles de l'organisation dans un contexte qui est non contractuellement lié à l'organisation. C'est aussi l'aspect contractuel est très important. On aura peut-être un épisode aussi à discuter de ça spécifiquement parce que la consommation informologique non liée contractuellement est un problème. Donc, tout ça est hyper complexe puis les gens ne mesurent pas la portée de ce qu'ils font, même si dans le quotidien, ça les aide à exécuter leur travail, ils se suivent. Ouais, non, blesse-toi pas, Vincent.
C'est moi qui ai accroché la planche.
Ouais, t'as brisé ton bureau. Faut pas briser ton
bureau. Non, il est trop petit encore. Ça va pas le rapetisser. Non, mais écoute, tout ce que tu dis, t'arrives vraiment avec une notion de risque. Faut vraiment qu'une équipe de gestion des risques s'attarde à prendre ça en considération, à le définir, établir les balises, faire la cueillette d'informations, commencer à corriger la situation le plus rapidement possible. Et puis ensuite de ça, ça va par la chaîne d'approvisionnement. Ça ne veut pas dire qu'un DMU, c'est mal. Mais un DMU, dans un contexte encadré, avec une chaîne d'approvisionnement de création jusqu'à fermeture, suppression, destruction, peu importe, ça peut être très bien, là. Ça peut être très bien. Vous savez...
Mais un shadow IT qui est encadré, puis c'est ça, c'est comme un DMU qui est encadré. Puis ça, je l'avais vu dans certains enseignements que j'ai fait, c'est qu'au lieu de laisser ça sauvagement exister, on demandait une déclaration de la DMU, mais pas une déclaration dans le sens où on va chicaner ou on va contraindre. On veut juste savoir l'existence de ça, justement, pour qu'on puisse intervenir et, au besoin, détruire quand c'est la fin de vie.
Puis, de toute façon, la façon dont tu le mentionnes, c'est très bien amené, c'est que ça devient plus DMU ou Shadow IT à ce moment-là. Il y a une divulgation. Autrement dit, ça fait partie de la chaîne alimentaire, des produits disponibles. Puis, s'il faut décliner des produits disponibles sur demande avec fenêtre de temps prédéterminée, très court, ça existe ça aussi. Mais là, ça sort du contexte DMU, ça devient beaucoup plus encadré. Un groupe d'actuaires, un groupe de gens en marketing, un groupe de gens dans un autre secteur hautement spécialisé. Tu as parlé tantôt de tornades, on appelle ça des événements sinistres parce qu'on ne peut pas les prédire. Puis quand ça arrive, ça fait très mal. Puis c'est quand même enregistré. Ben ça devient peut-être ça va devenir justement des outils qui vont être utilisés ponctuellement selon la différente nature puis votre type de prestation de service. J'aime beaucoup l'utilisation de prestation de service parce que quand on vient pour taper sur les doigts de quelqu'un qui dit non, j'en ai besoin, non, c'est du DMU, à un moment donné, c'est quoi notre prestation de service? C'est quoi notre secteur d'activité? C'est quoi notre prestation? C'est facile de venir cadrer ce type d'activité-là dans une prestation, puis si ça ne cadre pas, c'est facile de le mettre à côté puis dire « Hey, ça ne cadre pas ». Si ça ne cadre pas, ça veut dire que si je le dis à papa, papa va te mettre en punition. C'est exactement ça. Vous voyez venir, là. T'sais, oui, mais il est super content, papa, depuis le début. Non, mais attends, là tu as pris une voie de contournement. En fait, tu as pris son char sans le dire. C'est exactement ça que tu as fait.
Papa, il n'aime pas ça.
Puis, tu n'es pas assuré. T'sais, c'est exactement ça que tu as fait, là. T'sais, c'est une petite caricature. Mais, tu sais, il faut juste... C'est un risque qui se calcule puis qui se gère.
Tout à fait. Oui, effectivement. On va basculer à la nouvelle. On l'a battu encore. Je pense que tous des sujets qu'on va devoir reprendre sur des épisodes spéciaux parce que sont très passionnants et très vastes comme sujet. Le sujet suivant, c'est Zoom se retrouve encore dans les nouvelles avec le fait que le gouvernement allemand croit, en tout cas énonce que Zoom ne respectait pas le GDPR, le RGPD. Donc, il y aurait des éléments dans leur contexte qui seraient nocifs pour la vie privée dans l'usage par le gouvernement allemand. Zoom se retrouve souvent dans les nouvelles, c'est ça. J'ai lu l'article en question, j'ai pas trop compris, j'ai pas saisi pourquoi dans ce contexte-là, ils en voulaient à Zoom ou qu'est-ce que l'élément spécifique qu'ils veulent faire ça. Je sais que d'un point de vue canadien, Zoom, peu de temps avec pendant la débâcle début 2020, ont décidé entre autres au Canada de mettre des serveurs Zoom au Canada. Et si on a un abonnement payant avec Zoom, on peut exiger que les communications ne passent que par les serveurs canadiens. Là, je ne sais pas, parce que là, ils ont l'air de dire qu'il y a d'autres informations qui circulent aux États-Unis. J'ai pas fait l'analyse au complet de ces éléments-là. Ça serait peut-être intéressant de le faire justement. Sauf qu'en même temps, là, on est toujours dans le maudit contexte où les États-Unis sont juste comme pas bons au niveau de la protection de la vie privée. Et le restant du monde a comme décidé d'être bon. Fait que là, puis même, tu sais, même au Québec, le projet de le PL64 est en cours d'étude. On va la semaine prochaine, je vais enregistrer un autre épisode pour le Livre blanc ontarien. Fait que les Ontariens aussi vont le faire. Malheureusement, le fédéral, là, Trudeau a déclenché les élections. Fait que le projet de loi fédéral est tombé. Fait qu'on va attendre après le 20 septembre voir ce qui va se passer et comment ils vont le remettre en vie. Mais en même temps, il n'y avait pas autant de vigueur là, dans ce projet de loi-là, dans ce bill-là. Fait qu'on va voir, mais on revient toujours au même contexte que les maudits Américains, ils ont des lois de marde sur la protection de la vie privée, puis j'écoute plusieurs podcasts américains, puis qu'eux-mêmes sont commencés à être exaspérés du laxisme qu'il y a aux États-Unis de cette façon-là, dans laquelle on est un produit, on n'est pas un individu.
Je les vois pas comme des gros méchants. Comme tu l'exprimes, je les vois comme des gens qui se disent « OK, on est un poids lourd dans ce type de décision-là pour ratifier, mais c'est pas notre idée. Fait qu'on ralentit le processus, puis on trouve toutes les petites failles qui nous écœurent, puis on les met à l'avant-plan. » Je te donne un exemple. Il y a une dizaine d'années, il y a une loi qui a démarré en Europe et le Canada, si je me trompe pas, a été très partie prenante dans ce dossier-là. C'est de protéger justement la vie privée de nos enfants sur l'Internet. Et puis, ça prend un projet de loi international. Puis, c'est 5 ou 6 pays qui doivent justement se prononcer pour ratifier. Et puis, le projet de loi qui était nickel, très bon, pas trop complexe. Première écriture, c'était simple, c'était compréhensif, ça donnait justement des moyens à divers pays, des moyens juridiques de pouvoir agir si jamais il y avait méfait ou on contrevenait à cette réglementation-là. Puis au travers de ça, les États-Unis, qui étaient incapables d'acquiescer que ce projet-là était super bien écrit. Puis tout projet de loi va venir éventuellement avec des amendements. Il va arriver des situations qui n'ont pas été cernées par les différents projets de loi qu'on va éventuellement étudier, analyser, amender, peu importe. Puis non, tout ce qui manquait, c'était les États-Unis justement à dire « Hey, OK, go, on va de l'avant. » Non, c'était pas leur idée. On pouvait pas aller de l'avant. On parle ici d'un modèle de régulation d'Internet. On ne parle pas d'un moyen juridique pour un pays X, Y, Z. On parlait d'un moyen de régulation au niveau de l'Internet et qui pouvait avoir justement une application juridique pour tous les pays qui voulaient participer. Puis les États-Unis, c'était un des poids lourds. C'était pas leur idée. C'est pas nécessairement mort dans l'œuf, mais disons que le dossier a traîné. Puis nos enfants sont depuis 10-12 ans, sont de plus en plus exposés. Ça aurait été le fun qu'il y ait un petit modèle plus, avec un peu plus de pong, voilà une dizaine d'années, ce qui n'est pas le cas présentement. C'est dans des zones grises encore, là, à gauche et à droite. Mais c'est vraiment la culture américaine. Pas leur idée.
Ouais, bon, au niveau fédéral, effectivement, mais au niveau des États, c'est la Californie qui en a une, je pense que le Michigan a une loi de protection. Puis les États sont en train de se doter, différents États aux États-Unis, de doter de lois de protection de la vie privée qui sont d'une efficacité diverse. Je ne suis pas suffisamment versé dans leur là pour savoir à quel point, disons, si on le compare au RGPD, qu'est-ce que c'est, ou par rapport au PL64, qui ressemble beaucoup au RGPD par ailleurs, sauf l'application extraterritoriale. Donc, c'est de voir. Fait, je ne sais pas. Oui, c'est sûr que les Américains sont impérialistes. Ce n'est pas leur idée, ce n'est pas une bonne idée. Là. Ça arrive souvent, tu sais, puis... Je connais des gens dans mon entourage qui sont comme ça aussi. Là. Fait, c'est pas juste les Américains, là, c'est dans l'entour de l'humain en partie. Là.
C'est une insulte. Tant que j'allais dire c'est pas une insulte, mais c'est une insulte, fait que je vais être transparent. C'est une insulte. Là. Ça fait penser aux gens qui sont vraiment postmodernistes. Salut, j'ai cette idée-là, j'y crois dur comme fer, fait que c'est la nouvelle norme. Fuck you, là.
Non, c'est dans la pluralité des idées qu'on avance, c'est pas juste.
Puis tu vois, le postmodernisme, c'est vraiment un nouveau terme qu'on essaye d'utiliser. Puis, excusez-moi là, j'ai vu un psychologue une fois à une conférence du Hackfest, que j'ai trouvé fort intéressant là, parce qu'il est venu exposer un petit peu son point de vue à des jeunes qui étaient invités, puis j'ai trouvé ça vraiment fantastique. C'est pas du postmodernisme. Fuck you là, c'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie. Moi, c'est exactement ça. Salut, j'ai lu telle affaire, j'y crois dur comme fer, c'est maintenant la nouvelle norme. Je crois plus rien d'autre. Excuse. Le psychologue a été très, 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 très ferme là-dessus, là. C'est salut, j'ai fait 10 à 12 ans d'études, j'ai inventé quelque chose, découvert quelque chose, et j'ai obtenu un doctorat de mes pairs, reconnu par mes pairs. Et toi, tu dis que ce que je dis, parce que ça contrevient à tes idées, n'est pas bon. C'est de la tyrannie, c'est pas du postmodernisme. On est en train de nous mettre un espèce de mot plus soft entre les deux oreilles pour qu'on dise « Oh, pauvre petit, il souffre de postmodernisme. » Non, non, c'est de la tyrannie. C'est un très mauvais comportement.
Il souffre de postmodernisme.
C'est un très mauvais comportement. C'est narcissique à mort. Oh,
c'est narcissique, là. C'est pas... C'est bon, on revient avec les mêmes débats sur les anti-vaxxers et ces éléments-là où ils prennent 20 minutes de recherche sur Internet et sont devenus des experts en vaccination quand tu as des gens qui consacrent leur vie à ce genre de choses-là. Puis, c'est bon, bref, c'est deux pas deux mesures, là, mais oui, bref. Et effectivement, mais on ne réglera pas ce problème-là. Là, puis on va enchaîner avec la dernière nouvelle qui est, je reviens encore parce que je l'adore, cette nouvelle-là. J'adore les nouvelles sur le Zero Trust. Moi, c'est mon fan parce que depuis 2007, je suis mis en contact avec cette notion-là, puis j'aime ça. Puis je trouve que la lenteur d'adaptation, elle est extrême, mais bon, bref. Même en 2007, je trouve que c'est une excellente idée. À ce moment-ci, c'est que là, on sort dans un contexte où c'est annoncé, c'est Citrix qui, entre autres, qui en parle, qui fait que il amène, puis c'est un peu un contrario par rapport à l'autre nouvelle que j'avais mentionné là-dessus, qui disait que c'était contraignant, ça limitait l'analyse du big data, blablabla, parce que lui était contrarié par ça, parce que ça limitait son sens d'affaires. Mais d'autres disent que ça améliore l'expérience utilisateur, puis dans le fond, ça permet une meilleure sécurité, parce que justement, ça permet aux employés de mieux gérer leurs informations, de mieux contrôler leurs informations, et d'en faire quelque chose qui, justement, leur permet d'opérer avec une plus grande quiétude d'informations. Puis c'est ça aussi, c'est important, parce que ça a transcendé l'épisode, c'est que l'utilisateur n'est pas nécessairement au courant de tout. Il faut lui donner un certain nombre de barrières rudimentaires qui lui permettront d'éviter de se tirer dans le pied. Fait que le Zero Trust, c'est une structure qui est justement mise beaucoup par les TI, qui aide l'utilisateur à éviter de se faire mal lui-même ou à éviter à faire d'une mauvaise manipulation des données. Donc, c'est une structure qui est amenée, puis c'est une idée qui est très intéressante parce qu'il y a un gain. Parce qu'en même temps, faut pas se leurrer, c'est très complexe à mettre en œuvre le vrai Zero Trust en termes d'idées larges parce que ça touche la GIA, ça touche le périmètre, ça touche le design des applications, ça touche à tous les aspects des TI. Donc, c'est très complexe, mais les bénéfices sont autant pour les utilisateurs parce qu'ils se sentent plus confortables à agir, donc ils sentent qu'ils ne feront pas nécessairement d'erreurs ou les erreurs qu'ils vont faire vont être limitées et contrôlées. Puis on parle comme là, on ramène sur le Power Apps, mais le Power Apps, les utilisateurs qui l'ont fait, ils n'étaient pas dans un contexte où ils étaient protégés, donc ils se sont malheureusement tirés dans le pied dans un contexte Zero Trust. Ben là, on limite la possibilité aux utilisateurs de se blesser avec l'information, à divulguer de l'information. Fait qu'on a quand même un regard très intéressant. Et avant de laisser le commentaire à Vincent, j'ai écouté, puis je vais peut-être faire un épisode là-dessus spécifiquement parce qu'on parlait justement du 1%, puis justement par rapport au Zero Trust, parce qu'il y a probablement juste 1% des entreprises qui ont les moyens de mettre en œuvre le vrai Zero Trust comme il est designé. Donc, il y a comme une ligne de pauvreté en cybersécurité. Donc, celle-là, il faudrait la traverser. Puis, Zero Trust est un des éléments phares de cette division entre ceux qui ont des moyens et mettre le Zero Trust et ceux qui n'ont pas de moyens et pas capables de mettre des Zero Trust. C'est quand même assez dispendieux. Donc, de regarder cet aspect-là puis voir le bénéfice pour tout le monde par rapport à ce genre de choses-là.
Juste un petit commentaire, si j'ai compris, se pourrait-il que si le Zero Trust est partiellement implanté, ça pourrait donner un faux sentiment de sécurité d'un point de vue utilisateur? Puis, c'est pas discriminatoire ce que je vais dire, avec malheureusement ce faux sentiment-là, avec ce que l'on fait, ce que l'on consomme, ce que l'on produit, on pourrait introduire justement des risques en se disant qu'il oui. va... OK. OK, fait que j'ai bien compris, c'est bon.
T'as bien compris, parce qu'il faut justement que l'élément de protection soit bien communiqué à l'utilisateur, parce que sinon il va prendre des risques qui sont démesurés par rapport à la situation. Et ça, il y a eu des études, puis c'est très intéressant, parce que la ceinture de sécurité, quand les gens ont commencé à adopter la ceinture de sécurité dans l'automobile, les gens ont commencé aussi à avoir des comportements plus négligents sur la route, parce qu'ils se sentaient en sécurité parce qu'il y avait une ceinture, ce qui est quand même, oui, ça augmente la protection. Mais ça ne fait pas que tu dois conduire de façon plus négligente parce que tu as une ceinture. Celle-ci ne te protège pas contre ta propre négligence. Donc, on est comme dans une zone où justement, il faut éviter que l'utilisateur se sente trop en sécurité et prenne des risques démesurés. Et il faut qu'il toujours soit capable de mesurer le risque. Je disais, tu as fait des années que tu travailles dans le milieu du risque. Moi aussi, l'analyser, c'est complexe. C'est des professionnels qui travaillent là-dedans. Puis transmettre ça à l'utilisateur... normal, c'est pas nécessairement donné, puis c'est pas nécessairement facile à faire non plus. Donc, faut être prudent avec ce genre de choses-là. Puis on le voit au sens large, puis c'est pas discriminant, c'est que si on regarde au niveau social, on le voit aux États-Unis, l'exemple des États-Unis, parce qu'il nous est projeté dans notre face régulièrement, bien, il y a une partie de la population qui est pas capable de comprendre ou faire une analyse intéressante ou une appréciation intéressante du risque par rapport à la COVID, par exemple. Donc, ce manque de capacité d'appréciation du risque associé leur fait poser des gestes qu'on pourrait considérer négligents, mais qui ne sont pas informés. Donc, ils ne sont pas capables de faire la saine mesure du risque associé. Puis, on le constate souvent dans des gens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner après la COVID, puis finalement, sont sur leur lit de mort, puis disent à leur famille, à leurs proches, faites-vous vacciner, là, c'est très important. Fait que c'est très triste de constater qu'il y a des gens qui doivent mourir pour apprécier l'ampleur du risque dans lequel ils sont et d'utiliser ce moment-là d'éveil tardif et trop tard pour leur vie propre, d'au moins aider leur famille à ne pas passer par le même chemin de souffrance. Fait que c'est complexe la compréhension et la maîtrise du risque, là.
Oh, écoute, j'ai une petite opinion là-dessus, là. C'est sûr qu'on entend ces histoires-là. Moi, ces histoires de lit de mort-là, c'est du bouhouhou, là. C'est juste de dire, écoutez, chers complotistes, parce que c'est très ciblé aussi, là, comme message. L'autre question. Là, je rentre dans le très, 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 très technique. Puis, si t'as pas la réponse, c'est pas grave. Tu parles beaucoup du Zero Trust. On va continuer. Là, tu parles de l'utilisateur, hein? Tu parles de l'être humain à qui on va dire « Écoute, tu vas être très limité, on ne t'empêchera pas d'avoir tous tes accès pour pouvoir faire ta prestation de service telle que demandée. Tu vas rencontrer quelques barrières, tu vas te poser quelques questions, on a des réponses pour toi. Mais sache que ceci, c'est pour ton bien, mais surtout le bien de l'entreprise, autrement dit. On va éviter le plus possible l'introduction d'erreurs humaines. Mm-hmm. Bon. Moi, j'ai une infrastructure là, avec un ordonnanceur de travaux automatisés réparti sur une centaine de systèmes. Là tu as introduit le Zero Trust, tu as du compte de service. Là, il y a des gens qui m'ont introduit dernièrement à des comptes applicatifs. Je reste quand même je dis quand même que c'est des comptes de service. Là, tu veux quand même que ta production automatisée, qui est ordonnancée à telle heure avec une cascade d'événements, de communication, de pompage de données, de traitement, de pitchage, là, etc. Il doit y avoir une forme de complexité de mise en place au niveau du Zero Trust pour tout ce qui est tâches automatisées, pour justement harmoniser toute la patente.
Oui, il y a fondamentalement de la complexité au Zero Trust. C'est justement quand je faisais mention du fait qu'il y a juste le 1% des entreprises les plus riches qui ont les moyens de mettre en œuvre cet élément-là, parce qu'il faut comprendre ce qui est accédé, comment c'est accédé. Un des éléments très importants, puis dans lequel tu étais, c'est une de tes forces d'ailleurs, la GIA fait partie intégrante du Zero Trust parce que seules les applications ou les utilisateurs autorisés, dûment autorisés, puis tous les points de contrôle de l'identité du processus, du compte de service ou du compte applicatif, comme tu mentionnais, ou du compte utilisateur, parce que dans le fond, ultimement, ça revient à la même chose, est vérifié à plusieurs étapes. Donc, cet élément de vérification-là est très important et même primordial au fonctionnement des chaînes de traitement que tu mentionnais. C'est que la chaîne de traitement, une fois qu'elle est bien montée, qu'elle est bien réfléchie, l'identité suit la chaîne de traitement. Et donc, si la chaîne de traitement essaie de faire un traitement qui excède l'autorisation du compte de service, ou peu importe comment on va nommer cet objet-là identitaire, ça va être bloqué par les systèmes parce que c'est vraiment juste la bulle dans laquelle le compte a le droit d'opérer. C'est un des aspects du Zero Trust.
Oh là, j'ai de quoi d'intéressant. Se pourrait-il que dans une optique de contrôle général informatique, gestion de changement de programme, que ce soit du DevOps, en passant, je ne dirais jamais DevSecOps en podcast, du DevOps pour moi, c'est l'automatisation mur à mur, là. Ça commence à devenir mauditement bénéfique, là. Autrement dit, pour la séparation des tâches incompatibles. Ce que je veux dire par là, c'est que...
Quand c'est bien fait. On revient toujours...
Tu l'as dit.
Le problème avec la sécurité, c'est ce que je dis régulièrement. Les gens, c'est très banal. Pour moi, la sécurité, c'est très banal. C'est de bien faire les choses. Donc, si on fait bien les choses, on les fait sécuritairement.
Tu l'as dit. Quand c'est réfléchi à la base... Puis qu'ensuite de ça, on le couche sur papier, puis ensuite de ça, on le configure dans les systèmes. OK. Ça veut dire qu'au niveau du DevOps ou du développement, je vais dire traditionnel, donc le développeur, le libraire, et puis le spécialiste pour la mise en production, etc., peu importe le modèle, ça devient fortement intéressant parce que, comme tu l'as dit, avec le niveau d'autorisation permis, le développeur ne pourra jamais, en aucun cas, jamais, mettre son propre code en production puis récupérer les demi-sous.
À te parler, puis là, ça m'a fait allumer sur la séparation des tâches. Et effectivement, Zero Trust, au niveau de ce volet-là, c'est exactement de la séparation des tâches. Mais ça, dans le GIA, on a ce volet de séparation des tâches que lequel on est plus habitué comme vocabulaire, mais c'est du Zero Trust qui est appliqué pour l'identité. On l'a dans le réseau, on l'a dans l'applicatif, on l'a partout. C'est justement la philosophie qui est là. C'est pour ça qu'on ne peut pas acheter un produit Zero Trust, mais c'est un concept qui se transmet dans les différents éléments. Mais la séparation des tâches
ça devient un moteur philosophique pour l'application justement du modèle qu'on veut dans notre entreprise.
Fait que si on fait une saine séparation des tâches avec des comptes, puis comment c'est bien fait, effectivement, on fait du Zero Trust avant même que ça s'appelle du Zero Trust. Puis c'est le chemin, là. C'est juste qu'on a mis sous le même couvert un ensemble de concepts qui transcendent beaucoup d'autres choses avant. Là. Puis là, je vois ta satisfaction. C'est...
Oui, effectivement. Là. On entend depuis plusieurs années parler de DevOps. Écoute, par expérience, ce que j'ai vu. J'ai pas vu de DevOps, j'ai vu du hybride.
J'ai tout vu.
j'ai vu du pas de DevOps, puis du pas d'hybride, puis du pas de contrôle. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu du hybride, etc. Mais quand les gens me posent la question, parce qu'on m'a posé la question à plusieurs reprises, moi, je vois ça comment? Ben, moi, du DevOps, puis là, je vais rester sur le DevOps, là. Puis ça va rejoindre un peu ce que Nicolas disait. du DevOps, là, c'est une saine gestion d'accès. C'est que le développeur, on veut qu'il développe. Puis on l'a embauché pour développer. On veut qu'il développe 99% du temps. 1% du temps, là, c'est qu'on veut discuter avec lui. On veut voir ses idées. On veut pas qu'il fasse des mises en production. On veut pas qu'il fasse d'entretien. On veut pas qu'il fasse de la maintenance. Mais 1% du temps, il va peut-être donner un coup de main pour de l'entretien et de la maintenance quand l'outil va passer en mode continuité. Le DevOps, c'est que le développeur, il est embauché pour développer. Ce qu'il aime dans la vie, ce pourquoi il est heureux, c'est de faire du développement. Ensuite de ça, on met une mécanique. On met tout simplement une mécanique qui accepte le code, qui teste le code, qui fait le use case et qui pitch en production si les barrières sont thumbs up. Maintenant, pourquoi je dis gestion d'accès? C'est que celui qui contrôle le résultat attendu des tests dans la boucle infinie du DevOps, il faut que ce soit une personne indépendante du développement. Normalement, c'est une personne qui est du côté utilisateur, un analyste fonctionnel qui comprend que le demandeur veut ça, le développeur fait ça, puis ce que le développeur fait pour le demandeur, c'est que le résultat doit être ça. Les résultats sont tout le temps attendus, c'est que la séparation des tâches vient avec une gestion d'accès, tout simplement, à la boîte noire qu'on appelle DevOps. Puis la mise en production, c'est le même scénario. Personne n'est en production. C'est un compte de service qui, une fois qu'on y envoie notre preuve de vaccination, en plan ça de même,
oui.
va dire « Hey, à telle heure, je ferme les services, je mets en production, peu importe votre modèle, vous roulez une phase de test ou peu importe, puis le lendemain matin, les couteaux sont levés, la version a été mise à jour de 0.1, puis voilà, c'est réglé, là. Il n'y a eu aucune intervention humaine. Puis le zéro trust, pour moi, là-dedans, ben en fait, pour moi, ça, c'est complètement du zéro trust mur à mur. Puis personne n'a transgressé sa zone, je vais dire, sa zone géographique de travail.
Oui, sa zone de responsabilité, oui.
Et voilà.
Oui, c'est une des applications, puis c'est une très belle façon de l'illustrer aussi, parce que le monde invente plein de concepts à l'heure actuelle là-dessus. Là. C'est une très façon de faire. Puis. Dans le fond, pour moi, plus j'en parle, plus ça devient ça. C'est juste comme un amalgame d'un ensemble de choses qu'on avait avant, qu'on avait différemment, dont la séparation des tâches, par exemple, qui deviennent sur un parapluie unique, sur un concept unique, qu'on intègre dans ce concept unique-là pour avoir une vision d'ensemble qui est uniforme sur l'application des contrôles, justement, l'outil, affaires et ainsi de suite. Le DevOps en fait partie. En plus de cette mécanisation-là qui est une saine approche, c'est élémentaire, là, c'est ça. Ceux qui font du DevOps non mécanisé, tant qu'à moi, c'est pas du DevOps. Ça existe, j'en ai vu. Ils faisaient du DevOps non mécanisé. Là.
Écoute, je pense que je lisais un article il y a à peu près 4-5 ans. Je pense qu'Amazon fait 35 000 mises en production par mois. Ou par semaine, écoutez, je me souviens plus, il faudrait que je retrouve l'article, mais l'article m'a fait sursauter, je l'ai lu debout, là. Puis, on parle du site web, on parle d'Amazon Photo, on parle d'Amazon Prime, on parle de leur infrastructure d'intelligence pour les entrepôts, les commandes que vous passez. Hey, c'est pas vrai que je vais embaucher 35 000 libraires pour faire 35 000 mises en production. Ça prend une mécanique. Il faut mécaniser le processus, puis le DevOps est un des éléments. Puis je pense que l'application du zéro trust, parce que c'est une grosse compagnie, ils veulent pas se ramasser devant le tribunal pour des mauvaises raisons. Le zéro trust est une belle mécanique justement qui vient bonifier toute la chaîne d'approvisionnement du DevOps, du développement jusqu'au code mis en production. Là.
Tout à fait. On va conclure là-dessus. Là, on a déblatéré encore très longtemps parce que les sujets étaient vraiment très passionnants. J'espère que vous avez eu la même passion à l'écouter qu'on a eu à en jaser. Donc, on remet ça. On va probablement même faire des épisodes spéciaux sur des sujets spécifiques par rapport à ces éléments-là. Comme on a mentionné, c'est super trippant. C'est à chaque fois très plaisant. Puis, je pense que je commence à pogner le twist. Puis je pense aussi, Vincent, d'enregistrer en présentiel. Fait que ça donne une dynamique qui est encore d'autant plus intéressante. Souhaitons qu'on va pouvoir rester en présentiel quelques temps encore avant de retourner sur nos TV à nous regarder à travers une TV.
Ouais, fait que lavez-vous les mains, faites-vous vacciner, faites un effort, best effort pour tout le monde. Puis à la prochaine.
Awesome.